Bienvenue sur Just a Click, le podcast français du product management. Ici, on parle de tech, de design et de business. Je suis Thierry Michel et j'accueille chaque semaine des leaders du monde du digital. Ici, vous trouverez des retours d'expérience, des conseils et apprentissages concrets pour progresser en product management. On dit que seul, on va vite, mais sur Just a Click, on prend le temps ensemble d'aller loin. Salut Olivier.
Salut Thierry.
Merci de prendre du temps aujourd'hui donc pour parler produits dans un contexte de consumer social, de création de produits dans cet univers. Donc ça va être la thématique de notre échange. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter puis de présenter ce que tu fais.
Ouais, ok. Donc je suis Olivier. Ça fait. Ouais, j'aime bien dire que ça fait 10 ans que je suis dans la tech, mais maintenant je crois que je suis plus proche des 15. J'ai fait plusieurs métiers successifs, du développement, du design et du product management. En product management, j'ai plus récemment été product director chez ManoMano. Donc juste après les premières grosses levées de fonds, la grosse croissance, etc. Donc beaucoup de structuration, beaucoup de travail sur plein d'éléments. Ensuite, je suis devenu VP Product chez Comet, une startup, une marketplace en fait, qui mettait en relation des freelances avec des missions et des clients. Et depuis maintenant 2 ans, j'ai lancé Youku avec 2 associés, qui est une startup dans le consumer social dont on reparlera juste après. Et en parallèle de tout ça, parce que j'aime bien faire plein de choses, j'ai une newsletter sur le produit qui s'appelle Productverse et une activité de coaching où je mentore en gros généralement des head of product, VP product, CPO, mais aussi parfois des individual contributeurs.
Très 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 clair. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que vous faites chez Youku? Comment tu définirais un peu votre produit, service, enfin.
Ouais.
Je te laisse me présenter ça.
Alors le produit, il a pas mal évolué, mais je vais déjà peut-être repartir un peu du début, le problème, qu'est-ce qu'on essayait de faire. L'idée du Youku, elle est née pendant le confinement, le Covid, etc. On s'est dit, en fait, il y a de moins en moins de place sur les réseaux sociaux pour passer du temps avec ses meilleurs potes. On les voit de moins en moins. On a un petit peu Snap pour les plus jeunes et puis un peu les stories. Donc, c'est vraiment une bande de 100 pixels sur ton téléphone, sur Insta. Mais au-delà de ça, il y a de moins en moins de place. Ou alors, ça s'est déplacé dans les groupes chat. Donc, en gros, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un endroit à créer dans lequel on pourrait resserrer les liens avec les gens qui comptent vraiment. Ça a été vraiment le point de départ de Youku. Youku, on est à la V3, on va dire, au troisième pivot, on pourrait appeler ça, maintenant. Donc, on a eu un premier chapitre qui était très... finalement, si je devais résumer ce qu'on faisait, c'était comme un Discord en 3D. Donc, tu avais une île, en fait, en 3D que tu pouvais... créer avec tes potes. Plus vous passiez de temps, plus vous aviez d'espace et plus de capacité de customisation et la possibilité d'aller en live et de discuter comme on est en train de faire là, mais même à distance. Donc tu pouvais partager ton écran, parler, etc. Ça, c'était la V1 de Youku. Ensuite, on a créé un nouveau produit qui s'appelait Beep, qui était autour du voice messaging. Et je pourrais te reparler des transitions entre les différentes étapes, mais en gros, on voulait faire en sorte de créer une messagerie où le voice message devient vraiment un first class citizen. Et ça, on l'a travaillé pendant une petite année à peu près, jusqu'à la fin de l'été. Et ensuite, on est arrivé sur notre troisième chapitre qui s'appelle Backstage, dont la première version vient juste d'être acceptée par Apple aujourd'hui même, là, juste avant que tu arrives. Et voilà.
Très, très clair. Juste pour revenir sur la dernière chose que tu viens de dire, c'est vrai que donc vous avez une app sur l'Apple Store et oui. Les procédures de validation Apple sont humaines, contrairement à ce qui se passe sur Android. Et derrière, ça peut prendre en moyenne jusqu'à 10 jours et il y a vraiment des guidelines hyper strictes à suivre.
Donc, ouais.
Quand tu dépends que de ça pour la distribution, il y a quand même pas mal de pression quand tu sors des
produits.
Ouais,
exactement. C'est-à-dire, toute l'équipe s'est donnée pour sortir une version. On était prêts, je crois... quasiment mi-janvier, là on est fin janvier, et on a mis quasiment 10 jours d'aller-retour avec Apple pour arriver à trouver ce qui n'allait pas, etc. Il y a toujours un petit truc. Et ce qui est marrant, c'est que c'est humain, et en plus, c'est des procédures où on voit pas vraiment plus loin que le bout de son nez, donc on nous donne des choses à faire, on les corrige, on se dit ok, ça devrait être bon, et puis on arrive sur le prochain, on bute sur une nouvelle chose, etc. etc.
Très clair, très clair. Mais du coup, pour compléter aussi notre thématique, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais on va parler de d'app dans le consumer social pré-market fit, parce que c'est aussi le sujet. Comment c'est tu ça. Construis un produit avant d'avoir trouvé ton market fit, parce que on a pas mal de littérature et j'ai déjà fait pas mal d'épisodes aussi sur les cas de produits qui ont déjà trouvé leur marché, qui sont en phase d'accélération. Mais quand on est en train de le chercher, ce marché, souvent ce qui revient, c'est un peu le mode freestyle, quoi. Tu fais un peu tout en parallèle, mais je suis intéressé du coup par avoir ton retour d'expérience sur le freestyle que toi tu vis aujourd'hui avec ton équipe, comment vous le gérez. Donc déjà là, tu as parlé de plusieurs, en l'espace de même pas 2 ans ou à peu près 2 ans, plusieurs pivots, plusieurs ajustements. Comment vous êtes parti dès le départ sur juste une intuition, sur qu'est-ce qui vous a donné la première étincelle au-delà de l'aspect Covid et d'avoir constaté un peu ce besoin, comment vous l'avez constaté, et derrière comment vous vous êtes un peu donné des étapes pour savoir si vous l'avez fait, hein, pour ensuite pivoter.
Ouais, ok. Un des apprentissages principaux, on va peut-être commencer par ça, c'est que dès que tu es pré-product market fit, donc on connaît tous le terme, mais on ne l'a pas forcément tous vécu cette étape, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a plus à gagner qu'à perdre, on n'a pas de clients d'utilisateurs, on n'a pas de data. Donc en fait, on est quand même beaucoup à fonctionner avec une vision et une intuition. Et pour être capable de pivoter vite, en réalité, le learning principal que nous, on a eu au cours des 2 ans, c'est qu'il ne faut pas tester des hypothèses faibles, il faut tester des hypothèses fortes. Alors, qu'est-ce que j'appelle une hypothèse forte ? Ça veut dire que tes solutions ou tout ce que tu amènes sur le marché, ça doit être... ça ne peut pas être tiède. Parce que si c'est tiède et que, en gros, entre la solution A et la solution B, il va y avoir un petit incrément de quelques pourcents, évidemment qu'avant que tu aies suffisamment de volume, d'utilisation, etc., pour être capable de vraiment mesurer un impact significatif, ta boîte, elle sera déjà morte. Donc forcément, on ne peut pas faire ça. Donc nous, ça veut dire que à chaque fois qu'on est parti, et je vais répondre à l'autre partie de ta question juste après, on est parti d'une intuition ou de la... généralement qui est étayé par des discussions avec les utilisateurs, etc., ou en tout cas notre cible qu'on peut avoir. Et généralement, on essaie de mesurer un peu des comportements, des signaux faibles quoi, de comportements qu'on verrait chez notre entourage ou chez les ados avec qui on peut discuter. Et fort de ces comportements, on essaie de se dire « Ok, c'est quoi un peu notre théorie là-dessus ? Est-ce qu'on pense que c'est un comportement qui va se généraliser ? Et si c'est le cas, c'est quoi la solution la plus bold qu'on peut trouver ?» qui ne laissera pas les gens de marbre, soit ils vont adorer, soit ils vont détester. Parce que si leur réaction, elle est « Ah oh ouais, c'est cool !» mais sans plus, déjà, ce sera très dur d'activer ces gens, et en plus, ce sera très dur de déterminer est-ce qu'on est dans la bonne direction ou est-ce qu'en fait, on est en train de perdre notre temps et ce temps, il serait mieux utilisé ailleurs.
Là-dessus, ouais. Donc 2 points je trouve hyper intéressants que tu as dit. Le premier, c'est qu'on a plus à gagner qu'à perdre. Et ça, c'est vrai que du coup, vu que tu n'as pas encore ta base client, etc., tu peux te permettre, c'est un peu le unfair advantage, j'ai envie de dire, quand tu es prêt market fit, c'est de te dire, en fait, je peux y aller à fond sur un truc qui pourrait être tellement risqué pour quelqu'un qui a déjà son market fit qu'il ne le ferait pas. Vous pouvez vous le permettre parce que de toute façon, il n'est pas encore là. Et l'autre point, du coup, c'est directement lié à ça. Ce que tu viens de dire, c'est que de ce fait, il faut aller sur des convictions, vraiment des tendances fortes et pas faire des choses qui sont dans des tendances moyens qui vont prendre beaucoup de temps avant d'avoir la traction nécessaire.
Ouais, c'est ça.
Par rapport à ça, donc assez clair sur vous avez vos intuitions, vous dites ok là on teste, on y va de manière assez bold et puis en fonction, si on n'a pas la traction qu'on attendait, on pivote. Donc ça c'est ce que vous avez fait du coup 2-3 fois.
Ouais.
Donc là, qu'est-ce qui a fait à l'étape où vous êtes actuel que vous êtes parti sur cette thématique-là, sur la thématique que tu n'as pas encore détaillé, mais la nouvelle version de ce que vous avez sorti. Qu'est-ce qui vous a emmené ici et comment vous y êtes arrivé ?
Alors c'est marrant parce que les trois idées qu'on a testées pour l'instant, elles sont pas nées de la même manière. Donc la première, pendant le Covid, c'est né d'un besoin personnel en fait. On se dit, on peut voir personne, on a tous fait des Zoom apéro, c'est l'horreur. On commence à avoir popé des Discords plus intimistes et on se dit, c'est cool, mais on reste dans un truc qui est très monolithique ou qui est pas très émotionnel, qui est pas très immersif, dans lequel potentiellement on se dit il y a une place pour aller inventer un nouvel usage. Donc nous on commence cette idée d'un Discord en 3D. Donc en gros ça se résumait par une île, t'invites des potes sur une île et cette île elle est désertique et plus tu invites tes potes, plus tu passes de temps, plus etc. Plus vous collectez et vous c'était gamifié, plus vous aviez des moyens de créer votre colloque virtuel entre guillemets. Et dans cet endroit-là, on peut partager sa tête, partager son écran de téléphone. Donc on pouvait vraiment streamer son tel et mater des TikTok ensemble ou commenter des choses, enfin, etc. Et discuter comme on le fait là. Donc cette idée-là, elle naît vraiment à un moment d'un besoin que nous-mêmes on a ressenti. Garde
ensuite la suite. C'est juste que ce que tu viens de décrire me fait penser à quelque chose que j'avais utilisé il y a un moment. Je pense que tu avais dû le voir passer, qui s'appelait Abo Hotel.
Bien sûr, ouais, une grosse inspi, ouais, c'est yes. Sûr. C'était une grosse inspi, donc c'était Abo Hotel, mais on était vraiment pour le coup en pur 3D, pas juste de l'isométrique, etc. Donc typiquement, ce premier produit nous prend pas mal de temps à faire sortir de terre, puisqu'il faut poser la vision, il faut le développer. Donc là, on passe... Donc on lance notre startup, on lève assez facilement de l'argent, honnêtement, parce qu'on a une équipe... On était bien entouré, bien... et dans le bon moment, en vrai, le timing est toujours clé, puisque c'était... Nous, on commence à bosser là-dessus, je pense, dans l'été. Et 2 mois après ou 3 mois après, il y a Mark Zuckerberg qui dit que la boîte Facebook va s'appeler Meta et que le Metaverse, c'est l'avenir. Il s'avère que notre truc ressemble vaguement à ce qu'on pourrait appeler une émanation du Metaverse. On n'avait pas de théorie particulière sur le Metaverse, hein, mais du coup, tout d'un coup, notre téléphone n'arrête pas de sonner et facile de lever de l'argent. Donc à ce moment-là, on peut créer une équipe, mais on met quasiment 8 mois à faire un MVP. Parce qu'il te faut un niveau de qualité. Alors ça a été un des learnings évidemment rapides, qui est que en consumer social, tu ne peux pas livrer un truc à moitié fait ou etc. Donc le MVP, la culture du MVP que j'avais hérité du B2B, marche plus du tout. C'est-à-dire le truc où vraiment c'est cassé à plein d'endroits, mais la différenciation ou la petite valeur perçue que tu veux aller tester, tu peux le faire. Ben, en B2C, c'est pas possible parce qu'ils nous comparent à des Roblox, à des Fortnite, à des Insta qui ont des apps ultra léchées, qui réagissent à la microseconde, etc. Et donc là, nous, on met 8 mois à sortir un premier MVP.
Du coup, pareil, là, ça me fait penser à un point sur ce sujet-là, parce que donc on disait au départ, tu mentionnais le fait que ce qu'il faut faire, c'est prendre des hypothèses très fortes quand t'es en pré-PMF pour pouvoir les tester rapidement.
Ouais.
Et ce qu'on est en train de dire aussi, c'est que dans le contexte consumer social, tu peux pas te permettre de sortir un produit à moitié cassé parce que les attentes des utilisateurs finaux sont très élevées. Et en même temps, du coup, ça veut dire quoi? Pas sortir un produit cassé, ça veut dire mettre un gros effort de développement et donc du temps et de l'argent important avant même de tester ta première hypothèse, quoi.
Exactement.
Donc comment toi, là, peut-être plus ton regard aussi un peu tech, comment tu, parce que 8 mois ça peut paraître long, en même temps ça peut aussi paraître rapide pour sortir un environnement virtuel assez complexe, donc quels ont été un peu les quick wins ou comment vous avez fait techniquement pour réussir, quelle était la taille de l'équipe et pour réussir à sortir ça aussi en 8 mois, tu vois?
Donc en 8 mois on passe de 3 à 12. Donc croissance rapide, on trouve des freelances seniors pour essayer d'aller vite et après on prend plein de raccourcis. Donc effectivement, nous on était plus proche de créer un jeu vidéo en fait, un jeu vidéo mais social, etc., etc., que de créer une app classique. Donc 8 mois c'est pas si long et à la fois pour moi c'était une éternité parce que justement 8 mois avant d'être capable de tester l'hypothèse sur laquelle on a levé, c'était vraiment très dur même émotionnellement parce que tu te dis non on veut aller plus vite. Donc les manières qu'on a trouvé d'aller le plus vite possible, ça a été de pas avoir d'environnement de test, on a que donc staging c'est la prod, c'est d'être capable de s'accompagner de seniors pour essayer de gagner du temps, c'est évidemment d'essayer de réduire le scope et d'aller à l'essentiel sur ton chemin critique et l'idée forte que tu veux aller tester. Nous c'était le partage d'écran avec de l'audio dans un environnement 3D. Donc par exemple pendant de nombreux mois j'ai refusé de rajouter une quelconque customisation, enfin tous les trucs un peu de delight dont on savait qu'on avait besoin n'étaient plus dans le scope principal, puisque de toute façon si on n'avait pas la fonctionnalité principale et l'usage principal, on pouvait pas voir ce qui se passait. Et donc ça a été toutes les manières d'accélérer. Et en parallèle, on a essayé de faire de la discovery, comme tu ferais dans une pratique produit classique. Comment c'est faire de la discovery dans un domaine comme ça? On a commencé à faire des vidéos TikTok. À l'époque, en plus, c'était facile de faire des vues avec de l'organique. Donc on raconte notre histoire, ce qu'on essaie de faire, etc. On a plusieurs vidéos qui dépassent les centaines de milliers de vues, avec un taux d'engagement qui atteignait les 30%. Donc énorme. Généralement, on est plus proche des 2-3% sur une vidéo. Donc trop d'engagement de 30%, ça veut dire 30% des gens like ou commentent. Et généralement, le commentaire, c'est pour taguer des copains en mode « Viens, il faut qu'on teste dès que ça sort, etc. » Et donc, on commence à créer une communauté sur TikTok et sur Discord. Donc, on crée un Discord dans lequel les gens les plus passionnés viennent, avec qui on peut discuter, ce qui nous permet en fait de tester quand même quelques hypothèses. On teste via les vidéos, on a fait ce qu'on a appelé du message market fit. Vu qu'on ne pouvait pas encore faire du product market fit, vu que le produit prenait du temps, on s'est dit ben, « Ok, dès qu'on a une idée, un horizon, un truc qui pourrait être intéressant à ajouter au produit, avant même de le développer, de le concevoir ou quoi, on va un tout petit peu le designer et on va en faire une vidéo et on va voir comment elle performe. Ce qui nous aidait quand même à voir s'il y avait des vues, s'il y avait du taux d'engagement, etc., etc., et des conversations intéressantes, on se disait il y a un signal de quelque chose qui est potentiellement intéressant. Pour autant, la seule vraie validation, ça reste de le mettre dans les mains des gens.
Yes, parce que sur ce dernier point que je trouve hyper intéressant, on avait parlé en off sur le message market fit, c'est quand même que effectivement, tu as du coup un intérêt de voir si ce que tu penses être une bonne idée effectivement trouve un public, mais après l'usage, il peut jamais être remplacé effectivement par ouais. par un véritable usage et par une vidéo. Donc c'est vrai qu'il faut quand même toujours mettre ça je pense en perspective avec effectivement, si t'as zéro like, zéro vue sur ce que tu pensais être une bonne feature, il y a peut-être une question à se poser, mais c'est pas parce que t'es pas parti à 100 000 vues que ça veut dire que c'est une mauvaise feature. Il y a aussi ça.
Ouais, totalement. C'est complètement vrai dans les deux sens. Et en réalité, si je reprends une métaphore du jeu vidéo, c'est un peu comme tu démarres ton jeu vidéo et t'as le fog of war, là, l'espèce de la carte n'est pas découverte. C'est un peu ça, créer une startup dans le consumer social. T'as une idée et t'es dans le noir total. Dans toutes les directions, tu sais pas où il faut aller, tu sais pas ce qu'il faut vraiment amener, tu sais pas encore ce qui va faire la différence. Et ce genre de vidéo de message market fit, c'est un peu comme un phare, quoi, avec un tout petit peu de lumière et tu vois que il se passe un truc de ce côté-là. On sait qu'a priori la direction elle est intéressante. Ça ne veut pas dire que ça va marcher et ça ne remplacera jamais l'usage. Le dernier truc qu'on faisait pour essayer d'accélérer les learnings, mais généralement, là, on était plutôt sur du learning d'expérience, d'usage, etc. C'était, on allait devant les lycées. En fait, on est dans des McDo devant les lycées, etc. Je sais que Photoroom a beaucoup fait ça. Ils avaient un cycle de développement. Ils en parlent souvent, où ils allaient dans les McDo, ils faisaient tester leur app quelques heures plus tard, ils revenaient avec des mises à jour. Nous, on a fait pareil, mais plutôt avec des lycées, parce que nous, on cherchait vraiment une classe d'âge particulière, puisque quand on fait du social, il faut savoir que chaque année que tu prends en termes d'âge, moins il y a de probabilité que tu invites tes amis dans une app. D'ailleurs, nous-mêmes, je pense qu'on n'installe pas beaucoup de nouvelles apps sur notre téléphone. Si c'est une par mois, c'est déjà pas mal. Et donc, du coup, nous, notre target principal, c'est des gens entre 13 et 18 ans qui sont en train de former leur habitude à la technologie et qui, potentiellement, si on arrive avec une proposition forte d'un nouvel endroit sympa, comme ce qu'on essaie de faire avec la première version, donc de notre produit, donc Youku, ça va s'installer et les gens n'auront pas de problème à inviter plein de gens.
Très, très clair. Donc, qu'est-ce qui vous a fait ensuite, après cette première version, à passer sur une V2 et les apprentissages, si c'était à refaire, tu vois, là, tout ce que tu viens de décrire, moi, j'en vois plein de... Enfin, je me dis, c'est assez smart et en fait, ils ont eu la bonne approche. Mais j'imagine que toi, en étant de l'intérieur, si tu devais refaire l'histoire sur ces premiers 8 mois, voire un peu plus, tu ferais des choses peut-être un petit peu différemment. Donc.
Oui, bon, on simplifierait encore pas mal, je pense, le scope. C'était dur à ce moment-là de trouver tous les moyens de simplification. En gros, une équipe plus réduite, c'est ça que je ferais, avec un produit encore plus focus. Ça, c'est le principal truc que je ferais sur la V1. On était pas peu fier d'arriver à le sortir en 8 mois, mais ça reste trop long, 8 mois, sur une vie de boîte en pré-product market fit. Donc nous, on avait de la chance d'avoir autour de 2 ans et demi, 3 ans de runway. Donc runway, c'est cette idée que des investisseurs t'ont donné de l'argent. Si tu payes tous tes frais, combien de temps il te reste à vivre, quoi, avant de relever ou d'atteindre la rentabilité. Donc nous, on avait 3 ans pour trouver quelque chose qui soit intéressant. Et donc 8 mois, c'est énorme du coup à cette échelle. 8 mois, en fait, avant de pouvoir faire la première vraie itération. C'est pour ça que c'est long. Qu'est-ce qui nous permet de changer, c'est que au bout de ces au bout de 12 mois du coup, puisqu'entre 8 mois et 12 mois là on itère pour le coup à Bâle, donc pendant le premier été qu'on a dans la boîte, et en fait on se rend vite compte que on a beau expliquer, éduquer, etc., nous la manière dont on voyait cet espace, c'est que c'était un espace dans lequel t'invitais vraiment les gens dont t'étais le plus proche, et dans lequel c'était comme avoir une coloc, encore une fois, virtuelle. Sauf que tous les gens avec qui on discute, ils ont très envie de rencontrer des nouvelles personnes dans cet espace. Donc plus proche de ce que fait un Habbo Hotel, un Fortnite, etc., ou n'importe quel jeu, en fait, multiplayer online, où en fait tu rencontres des nouvelles personnes. Et là on se dit, ok, on a testé plein de choses dans notre discours, dans le marketing, dans les features, dans tout ça, mais les gens, c'est vers là qu'ils nous envoient, mais c'est ni la problématique qui nous intéresse, ni on aura suffisamment de moyens pour faire un jeu qui est meilleur que Fortnite dans ce domaine-là, ou Roblox. Donc on pivote. Et on pivote en repensant à, nos problématiques de départ. Et à ce moment-là, on arrive sur le deuxième produit qu'on a appelé Beep, un peu comme un beeper. L'idée, donc là, c'est de travailler autour des messages vocaux. Dans les deux cas, en fait, on faisait du vocal. On faisait un peu comme un voice chat Discord dans un environnement 3D. Dans la deuxième version, on se dit non, on va utiliser le vocal plutôt asynchrone.
Et la nouvelle idée, avant que tu continues à la détailler, ouais, elle est revenue pareil. Je claque des doigts de top of mind, quoi. Enfin, je veux dire, vous l'avez eu comme ça, c'est une idée où vous l'avez construite de manière un peu plus structurée en vous disant, bon, là, avec la V1, on a réussi à construire ça comme stack tech, et qu'est-ce qu'on pourrait reprendre et qu'est-ce qui pourrait fitter.
Il y avait un peu de ça, et il y avait un peu de notre thèse de départ, qui était que dans la thèse de départ, on avait toujours été vachement intéressé par l'utilisation de la voix dans un cercle proche, qui est une des manières plus intimes de discuter, plus directe, plus, etc. Et donc nous, on avait commencé par finalement un endroit dans lequel on se réunit de manière synchrone, live, il y avait un pan de cette thèse qu'on n'avait pas exploré, qui était la thèse asynchrone, donc tu t'envoies des messages que tu traites quand tu as le temps de traiter. Et donc, c'est un peu ça qui nous donne envie de continuer. On se dit, la thèse, on ne l'a pas invalidée totalement, on a juste invalidé une des branches. Donc, on se dit, bah ok, on a encore du temps, on va aller tester l'autre branche. Et on invente du coup Beep, qui était en gros, donc ça devait être, je pense, fin 2022, septembre 2022 à peu près. On se dit, ok, on voit l'avènement un peu de plein de nouvelles technologies qui rendent possible des nouvelles choses, et on se dit, ok, nous on a une idée où on va essayer de rendre super instantané la voix de vocal, on va tous les traduire automatiquement, on va tous les créer un transcript, en fait, les transcrire avec des sous-titres, etc. Donc ça veut dire que c'est des vocaux que tu peux utiliser dans n'importe quelle situation. Tu peux taper et on utilise une voix de synthèse pour lire les messages, ou tu peux recevoir des messages et les feuilleter un peu comme une story. Tu tapes, tapes, tapes et tu vois tout qui est écrit, etc., etc. Plus on ajoute des effets, des trucs un peu marrants, enfin bref. Toute une thèse là aussi que je vais pas détailler là, c'est pas intéressant, mais là, pour le coup, on reprend des éléments techniques et on est capable de sortir une app en 4 mois, là où on la sortait en 8 mois avant. Avec ce temps-là, on est resté un an à peu près aussi sur cette idée, mais on a pu itérer bien plus, deux fois plus en fait, hein, deux, trois fois plus que sur le premier produit qui, lui, faisait appel à beaucoup plus de gens. Donc là, on a encore streamliné notre effort, on est capable d'itérer sur des idées fortes.
Là, vos itérations, concrètement, vous les, elles prennent quelle forme? Parce que j'imagine, après cette première année passée, vous mettez un petit peu de structure dans les, ouais, tests. C'est quoi un peu vos...
Alors c'est l'inverse, on a mis de moins en moins de structure. la première année, quand on était plus nombreux, etc., on était plus structuré. Au fur et à mesure, on a aussi eu des équipes plus petites parce que on allait sur des technos de plus en plus simples à prendre en main. Donc typiquement, on faisait ce qu'on appelle du Unity, qui est un moteur 3D temps réel sur le premier produit. Donc là, il y avait vraiment beaucoup de gens, et c'est une techno qui n'est pas idéale pour faire des apps mobiles. On passe sur du React Native sur cette deuxième partie. Donc on a besoin de beaucoup moins de personnes. Donc on passe de 12 à 5. Ça veut dire qu'on est capable de là aussi streamliner énormément notre organisation. Donc la manière dont on teste est structurée évidemment, mais par contre tout le reste devient beaucoup plus simple.
Oui, ce que je voulais dire, tu fais bien de préciser ça, que ça, quand tu rajoutes du monde, ça complexifie aussi les interactions en interne pour fabriquer le produit. Ma question c'était vraiment sur la partie test, c'est-à-dire comment vous avez structuré votre process de discovery sur le besoin, quoi. C'est-à-dire toutes ces itérations, est-ce qu'il y avait un peu des key points que vous on coche pas, enfin c'est à ce niveau-là où...
Ouais. Alors c'est rarement sous forme de métrique, c'est généralement plus sur... on regarde un peu notre entonnoir classique, quoi. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilise beaucoup TikTok comme un moyen d'acquérir. Donc on fait rentrer des cohortes, on fait rentrer, 100 nouveaux utilisateurs cette semaine-là, et on regarde combien sont sign-up, s'activent. Donc activer, ça veut dire qu'ils ont au moins invité un ami, puisqu'on a une app sociale, il en faut au moins un, idéalement trois. Parce qu'en dessous de 3, c'est très dur de véritablement créer une habitude chez l'utilisateur. Et on regarde ensuite l'usage de la core feature. Donc c'est généralement cet entonnoir-là qui nous intéresse et qu'on va regarder sur chacune des cohortes. Et à partir de là, on itérait généralement une itération un petit peu significative. C'était tous les mois à peu près. Tous les mois, on avait des vraies nouveautés où on se disait « Ok, on va changer de vidéo et de message, voir si on arrive... » à acquérir plus ou moins facilement des gens, et une fois qu'ils sont arrivés jusqu'à la page de l'App Store, combien installent, combien passent dans l'entonnoir que je viens de citer, quoi. En gros, c'était ça notre métronome, et ensuite du quali quand on va discuter avec les utilisateurs.
Et donc après, donc là, cette deuxième phase, ça a duré à peu près donc un an de tests et d'apprentissage là-dessus. Ouais. Pareil, du coup, qu'est-ce qui vous a fait bifurquer sur la phase 3 au bout de cette année-là ?
Ouais, au bout d'un an, en fait, on se rend compte qu'on arrive vachement bien à séduire les gens qui sont fans de vocaux, mais que c'est très dur de faire rester le reste de son graphe d'amis. C'est-à-dire que généralement, y a une personne qui arrive ou deux, ils invitent un certain nombre de personnes, ils utilisent un peu, et puis au bout d'un moment, ça se délite dans le temps parce qu'ils reviennent à leurs habitudes, ils ont déjà des messageries. Le monde de la messagerie est quand même bien, bien ancré et n'a pas beaucoup bougé. Les messageries les plus récentes, ça serait peut-être Telegram, et encore, c'est très peu mainstream. Donc finalement, celles qui sont le plus utilisées, ça va être WhatsApp, la messagerie du téléphone, WhatsApp, Insta, Snap, et ça va pas beaucoup plus loin. La plus ancienne de ces apps, c'est Snap, qui date de 2013, donc déjà 10 ans. Donc très dur d'aller les chercher sur leur terrain. Et donc on voit que c'est la rétention est notre problème ici, et qu'on n'arrive pas à faire rester tout le groupe. Probablement parce que justement, le learning, c'est... en fait, on a fait une amélioration qui est marginalement meilleure, mais qui n'est pas suffisamment différenciante pour que les gens se disent « Ah, mais c'est trop bien, on ne peut plus s'en passer. » Et donc... on comprend ça au cours de l'été 2023. Et en fait, un des trucs qu'on a appris aussi à faire, c'est pas rester en amour avec nos idées et de se dire « Ok, on voit qu'il n'y a pas de point d'inflexion malgré nos tentatives, on change. » Et là, on a fini de tester notre première thèse, la thèse sur laquelle on a levé de l'argent. Donc à l'été 2023, on se dit « effectivement, comment on repart à l'assaut ? Parce qu'il nous faut de l'énergie et une idée qui nous motive et qui a du potentiel. » Et là, pour le coup, on avait de la chance parce qu'au fur et à mesure où on travaillait, on itérait sur les précédentes idées, on a plein d'autres idées qui nous sont venues, qu'on a rangées dans un parking, qui étaient les idées qui sont potentiellement rigolotes, intéressantes, mais qui ne devraient... Enfin, on ne peut pas les ouvrir aujourd'hui. Et là, on en avait une qui nous revenait souvent, qui était... en fait, on s'est rendu compte d'un autre comportement, d'un autre signal faible, c'est on voit tous nos amis prendre des photos sans cesse, mais pas les partager. Donc le cas classique qui parle à tout le monde, c'est tu es au resto et tout le monde prend son plat en photo. Mais généralement, cette photo, elle se retrouve nulle part. Elle est dans ta pellicule, tu la revisiteras probablement jamais. Et pourtant, on se dit, il y a plein de photos qu'on prend au jour le jour qui potentiellement racontent une histoire un peu différente de qui tu es, et qui, pour nous, notre thèse de comment on resserre le lien avec ton cercle social, etc., on se dit « Ah, il y a un truc à faire ». Et donc là, on se dit « Ok, on a compris des choses, on va aller tester l'idée la plus bold qu'on peut trouver là-dessus ». Et donc, on a créé une première appli qui s'appelait Cinnamon pour le Cinnamon Roll, quoi, et qui était une idée qu'on a sortie en 3 semaines. Là, on fait une app sociale où on dit aux gens, donc via TikTok, etc., on leur dit « Tu utilises cette app, t'invites que tes meilleurs potes, mais toutes les photos que tu prends de ton rôle sont automatiquement leakées vers tes potes. Dès que tu la prends, elle est envoyée. Et tu peux venir la censurer, on te notifie, mais tu peux la censurer, mais lui, il verra que tu as pris une photo et qu'elle est censurée. Et on teste cette idée-là en se disant, bah, en vrai, en toute logique, elle est tellement taboue, cette idée, de se dire « Ah, et si je partageais, et si je liquais tout mon photorol, c'est peut-être l'endroit le plus intime de mon téléphone, eh ben, normalement, personne ne va l'installer. » Mais c'est ça le but, c'est de faire une idée, ce que je disais tout début dans l'intro, c'est de tester une idée qui ne peut pas te laisser de marbre. Vraiment un truc où tu dis « Je déteste ou j'adore. » Et on teste ça, et on voit que l'acquisition-activation devient super difficile, mais il y a des gens qui utilisent, et qui adorent, et qui l'utilisent, et on discute avec eux. Très petit nombre, on parle de quelques dizaines de personnes, hein, même pas une dizaine je pense, sur tous nos tests, mais on se dit, potentiellement, si ces gens-là le font, on va essayer de comprendre pourquoi, et on va voir si ça nous donne suffisamment de conviction pour creuser cette idée. C'est ce qui va se passer, du coup on décide de continuer et de lancer une version, on va dire, plus scalable de cette idée qui s'appelle donc Backstage. Et qui est donc maintenant le troisième produit sur lequel on travaille.
Et du coup là qui est live donc sur, enfin là c'est une nouvelle version qui est live depuis quelques jours aujourd'hui.
Ouais, depuis quelques heures. Je pense qu'on va commencer à refaire le même fonctionnement que ce que je viens de décrire, c'est-à-dire on va faire des vidéos, pitcher notre truc, changer un peu le message, etc., faire rentrer des cohortes. Et là on va re-rentrer dans ce process qu'on connaît bien, de se dire « Ok, chaque semaine, on fait rentrer 100 personnes et on voit comment ça se comporte, on va discuter avec eux et on regarde comment rendre ça plus excitant, plus émotionnel, plus... un truc qui prend de la place, qui peut mériter que tu prennes entre 10 minutes et 30 minutes de ta vie dessus tous les jours sur ton téléphone. »
Hyper, hyper intéressant. Et du coup, j'imagine que vous avez relevé là, l'été 2023 ou...
Pas du tout, on est toujours...
Vous n'avez pas tout brûlé.
Non, voilà, on n'a pas tout brûlé. Okay. On a encore réduit l'équipe, du coup, justement pour être prévoyant et pour essayer de se donner du temps et d'utiliser des technos qui sont encore plus permissives, en fait, qui nous demandent un peu moins d'optimisation. Donc, on a fait du Unity, puis du React Native. Donc, ils sont tous les deux des plateformes, en fait, qui ne font pas du code purement natif. Donc, c'est généralement un peu plus lent et il faut être très, très... Et tu passes beaucoup de temps à optimiser pour avoir une qualité d'expérience qui est suffisante. Là, on est passé sur Swift. Donc maintenant, on s'est concentré sur l'iPhone uniquement. Ce que beaucoup d'apps dans le social font, qu'on ne faisait pas sur nos deux premiers produits, puisque c'était des produits de communication. Donc on disait aux gens, ramène ton groupe d'amis proches, mais si la moitié de ton groupe d'amis est sur Android et que tu ne peux pas leur parler, notre use case, il était déjà perdu d'avance. Là, c'est un peu différent, parce que c'est une app qui est un peu plus proche d'une app comme Insta, mais qui serait beaucoup plus privée. Et donc, du coup, c'est OK si tu n'as pas l'intégralité de tes amis, puisque on n'essaie pas de devenir ta messagerie par défaut, quoi.
Intéressant, ouais. Donc, vous avez fait le choix de partir sur le langage natif de la plateforme, donc d'iOS, qui est Swift maintenant. Je suis curieux, je ne sais pas si tu vas avoir... Alors, juste avant que je te pose ma question, pour que nos auditeurs comprennent bien, quand tu dis on a réduit l'équipe aussi, c'est que vous travaillez avec beaucoup de freelance. Donc, ça, j'imagine, ça ne veut pas dire que vous avez licencié...
Oui, bien sûr, c'est plus comme ça.
C'est dans une logique, voilà, aussi pour que tout le monde comprenne bien, c'est que là, vous êtes trois associés, si j'ai bien retenu, c'est ça. Je ne sais pas, après... Toi, comment vous travaillez les effectifs en fait en interne versus externe? Mais j'imagine quand tu dis on a beaucoup réduit l'équipe, c'est aussi beaucoup changé, réduit le nombre de freelances qui bossent avec vous.
On a réduit le nombre de freelances, on a pioché les spécialités dont on a besoin ne sont pas les mêmes quand on faisait la version 3D et maintenant. Cette app qui travaille sur de l'image plutôt que sur de la 3D. Et juste avant, c'était du vocal. Donc à chaque fois, on est sur des technos qui sont connexes, mais pas exactement les mêmes, avec des prérogatives qui ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, on est trois essentiellement à travailler full-time, les trois associés en fait. Hein. Et on essaie d'itérer le plus vite possible. On a toujours quelques freelances avec qui on bosse, mais maintenant, c'est plutôt du part-time, là où avant, ils étaient généralement en full-time et un peu plus nombreux, quoi.
Yes, et du coup pour revenir sur la question que j'avais par rapport peut-être, je sais pas si tu auras la réponse, mais sur la partie tech, sur la raison pour laquelle vous êtes parti sur du Swift versus du React, puisque...
Ah facile.
Ok, je te laisse...
Ouais, j'étais très promoteur de ça. Raison simple, Je vais rentrer dans un truc légèrement technique, mais Swift, grosso modo, c'est du langage déclaratif. Donc, c'est comme écrire du HTML quasiment. C'est-à-dire que tu as des balises et tu as des choses comme ça. Et tu as plein de comportements que les gens pourraient attendre d'une app mobile en termes d'animation, de fonctionnalités, de primitives, en fait, dont on a l'habitude sur iOS, qui sont d'emblée dans le framework et accessible en quelques lignes de code. Donc ça nous permet de faire des choses beaucoup plus vite, d'itérer beaucoup plus vite, avec du coup, c'est ça le but, hein, c'est d'aller beaucoup plus vite. Et moi surtout, ça me permet de prototyper beaucoup plus loin. Donc moi qui suis en charge du product et du design, je me suis remis à développer parce que cette techno-là, elle est beaucoup plus accessible pour moi. Tous mes designs, quand j'ai besoin de tester des idées, je peux les prototyper directement dans l'app. Donc en fait, j'ai l'app en staging, je fais une vue qui n'a rien à voir et je peux tester une navigation complètement alternative, et j'ai pas besoin de déranger mon associé technique qui est lui en train de vraiment faire en sorte que la prod puisse fonctionner, que les features qu'on a imaginées sortent le plus tôt possible. Donc voilà, c'est ça que ça permet.
Ok, très clair. Ouais. Ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est l'aspect effectivement animation, parce que iOS est connu, enfin les applications iPhone sont connues aussi pour leurs animations hyper fluides, hyper poussées. Et effectivement, quand tu es dans le langage natif de la plateforme, tu peux accéder à toutes ces subtilités qui pourraient paraître un peu overkill, mais en réalité, quand tu es sur du consumer social, c'est ce qui est attendu d'avoir toutes ces petites nuances d'animation, etc.
Ouais.
Et la capacité à prototyper directement et rapidement ton app sans. Ouais.
D'animation ou même de vraiment de comportement et de performance. Typiquement, en React Native, on a fait une app donc, qui gérait des messages vocaux avec des animations visuelles et des choses un peu delightful, un peu surprenantes. Mais ça, pour arriver à le rendre performant et le rendre performant sur un large éventail de téléphones, en React Native, par exemple, nous, on avait toute une partie de l'équipe technique qui était spécialisée en React. Donc, ils étaient hyper véloces à développer des choses. Par contre, comme eux, ils avaient plutôt... le React sur du mobile, ça nécessite une couche supplémentaire de travail sur la performance qu'on ne pouvait pas vraiment se permettre à ce moment-là. Alors que quand tu utilises une techno native qui n'est pas précompilée ou packagée dans une VM, etc., mine de rien, tu as tout de suite une performance native, donc tu es plus permissif. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, dans notre app, je suis à peu près sûr qu'il y a des millions d'endroits où ce n'est pas optimisé. Mais c'est pas, c'est normal, on ne sait même pas si l'idée elle va fonctionner. Donc, c'est tout à fait mieux de ne pas optimiser, de faire presque du code jetable, on pourrait dire, mais que ça ne se voit pas trop parce que ton téléphone, il va réussir à le faire tourner suffisamment bien.
Très, très, très clair, du coup. Donc, ça fait un bon tour là, de ces trois années là, à tester et jusqu'à arriver donc, à Backstage et voir ensuite ce que ça donne. Il faudra qu'on rééchange dans quelques mois. Sur, en tout cas, je trouve ça assez fun l'idée. Assez fun. En prenant un peu de hauteur par rapport à ces trois années, là, si tu devais du coup un peu lister les gros apprentissages, tu en as déjà partagé plusieurs, mais sur l'approche produit que tu as menée avec ton équipe et ce que tu devrais, si tu devais refaire les choses, donc tu disais aller plus vite sur la V1 pour essayer donc encore plus rationaliser les fonctionnalités clés pour essayer de descendre un peu, pas faire 8 mois mais un petit peu moins avant de tester. Quels sont les autres apprentissages là que tu pourrais partager?
Ouais, c'est une bonne question. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être les spécificités du social. Le social, c'est hyper compliqué parce qu'il n'y a personne qui a... Il n'y a pas de recette, en fait, miracle. Alors, je pense que dans tout ce qu'on fait, il n'y a pas de recette miracle, mais dans le B2B, il y a quand même une facilité. Il y a une capacité à identifier un problème précis et se dire, OK, j'ai un angle différenciant, mais normalement, si je fais pas trop mal mon travail et que je sais faire connaître mon produit, il va se vendre parce qu'il va résoudre un problème précis. Dans le social, le problème qu'on essaie de résoudre, il est globalement attaqué par tout le monde. Puisque c'est généralement, soit tu dis je veux resserrer les liens avec des gens que tu connais déjà, soit je veux t'aider à rencontrer des nouvelles personnes et combattre la loneliness. Mais globalement, quand tu as dit ça, tu n'as pas dit grand-chose. Donc en fait, ce qui est compliqué avec le social, c'est que c'est un mix entre évidemment un problème et une vision, mais aussi ce qu'on pourrait appeler une vibe. Et donc, personne sait vraiment dire qu'est-ce qui va faire que les gens, tout d'un coup, se prennent de passion pour un produit social. C'est dur, alors c'est facile à analyser une fois que le succès a eu lieu, mais c'est très dur de vraiment le prédire et d'être certain que ça va arriver, quoi. C'est un peu, généralement, quand je parle avec des gens, on me demande souvent ce que je fais, et c'est très dur à décrire. Du coup, généralement, je leur dis, c'est un peu comme si j'étais organisateur de soirée. On a tous vécu ce moment où on arrive à une soirée et dans la demi-seconde où on arrive dans la soirée, on sait instinctivement dire je vais passer un trop bon moment, je sais pas du tout à quelle heure je vais rentrer, je vais perdre la notion du temps, ou à l'inverse, ah, c'est pas ma vibe et quand est-ce que je rentre déjà, j'ai hâte de repartir. Et une app sociale, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que ok, ça te sert à être plus proche des gens ou à rencontrer de nouvelles personnes, ok, une fois qu'on a dit ça, il y a vraiment cette question de est-ce que je ressens quelque chose émotionnellement, est-ce que j'ai envie d'y être, est-ce que ça m'a l'air cool d'être là, et est-ce que j'ai envie de passer du temps dans l'app. Et ça, c'est pas facile à créer, et donc c'est tout ce travail-là, évidemment, qui demande du temps. Et donc, en gros, dans les choses qu'on a compris, quoi, avec le recul, c'est que il vaut mieux passer plus de temps à travailler un mix de la bonne feature avec la bonne manière d'en parler, donc tester beaucoup de messages de manière différente, de framer ce que tu fais, que de créer des millions de features. Donc ça, premièrement, c'est le premier truc qu'on a bien compris, sur lequel on a beaucoup itéré, sur lequel on est meilleur aujourd'hui, et donc ça passe par s'accompagner et travailler et progresser sur des aspects marketing, sur des aspects de design, d'esthétique, et donc tout à l'heure on parlait des animations ou des choses comme ça, mais ça contribue justement à cet aspect émotionnel qu'on peut avoir quand on est dans une app de ce type-là, quoi. Ça, c'est un premier learning. Ensuite, dans les learnings, les choses qu'on ferait différemment ou les choses qui nous paraissent être importantes, c'est donc la vitesse, on en a parlé aussi, mais toujours trouver des manières d'aller plus vite. Donc nous, aujourd'hui, ça veut dire que maintenant, par exemple, quand on était 10-15, on avait un Notion ultra bien organisé, etc. On n'a plus Notion. On a un Notion, mais il y a une page. Une seule page. Et on ne s'autorise pas à créer d'autres pages parce que le but, c'est d'être tous à la même enseigne et au même diapason. Donc on a une seule page. On avait Slack avec plein de channels, machin, etc. Comme on a tous connu dans plein de boîtes post-PMF, ben maintenant on a un channel. Bon, en vrai, c'est pas un, mais c'est quasiment ça. Il y a un channel de discussion et après, c'est quelques channels de notifs qui sont plutôt des channels techniques qui nous donnent le pouls du produit ou des éléments techniques. Mais grosso modo, il n'y a qu'un seul endroit où on discute. Et donc, du coup, on discute tous en public de manière transparente et c'est accessible à tout le monde. On n'a pas de ticket. C'est con, mais on n'a pas de ticket, pas de roadmap, tous les artefacts classiques du product management qu'on pouvait avoir. Moi, la première année, j'avais passé un peu de temps quand même à essayer de me dire, ok, j'ai une roadmap en plusieurs milestones, je sais à peu près dans quelle direction je vais. On a tout jeté, évidemment, parce qu'on a appris plein de trucs qui ont fait que c'était pas très utile. Et je me suis rendu compte que finalement, du coup, c'était du gaspillage, ce travail-là. Et que il fallait résister à ça, parce que finalement, nous, on a peu de stakeholders, on n'est pas dans la même situation qu'une boîte qui a 100 personnes, 200 personnes. On n'a pas de clients, on n'a pas de... Voilà. Donc en fait, la seule raison pour laquelle tu pourrais faire ça, c'est soit parce que tes investisseurs le demandent, ou soit parce que... Et généralement, c'est plutôt ça, c'est du busy work. C'est un truc pour que tu te dises, je suis occupé à faire des bonnes choses et à me poser les bonnes questions et à me rassurer sur le fait que j'ai un plan. Et en fait, un des trucs sur lesquels il faut être relativement à l'aise sur du pré-product market fit, c'est que tu as une direction, mais tu n'as pas de plan. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer et tu ne sais pas comment les gens ils vont prendre en main ou pas l'outil. Et donc, tout un tas de ces travaux qu'on faisait, finalement, ne sont pas si utiles.
Ok, hyper, hyper clair. Enseignement assez pertinent, notamment sur c'est vrai, cet aspect de vouloir trop structurer et mettre en place des choses que tu as pu voir justement dans d'autres boîtes avant, dans des expériences passées, donc qui ont leur marché, dans lesquelles il y a des équipes organisées. Là, effectivement, tu peux pas dire, bah, il y a pas de ticket, il y a pas de canaux dédiés Slack et autres. Mais toi, quand t'es en train de recréer quelque chose à partir de zéro, c'est effectivement être capable de lâcher tout ça, d'accepter de te jeter dans le vide entre guillemets, tout en gardant la vision, mais ensuite en se concentrant uniquement sur vraiment la valeur qui va permettre de tester ou non ton hypothèse et pas le busy work
C'est ça, le busy work ou le on a toujours fait comme ça. Et en fait, c'est plus dur à capter que ce qu'on croirait. Parce que là, je pense que quand les gens vont écouter, ils vont se dire oui, bon, c'est évident. Mais en fait, c'est assez évident qu'on arrive avec un bagage quand on démarre une boîte ou quand on rejoint une boîte. Typiquement, ça nous a pris un an, je pense, pour comprendre qu'il ne fallait pas qu'on ait plusieurs environnements techniques. Que le truc classique de j'ai mon environnement de dev, je travaille en tant que développeur, puis ensuite je passe sur staging et on est un peu plus nombreux à tester. Puis quand ça s'est testé, on le met en prod, bah, ça n'avait aucun sens pour nous parce qu'on a tellement peu d'utilisateurs qui généralement finissent par churner parce qu'on n'a pas encore craqué le truc que, bah, en fait, autant avoir un seul environnement qui est à la fois ton environnement de dev et ton environnement de prod. Ça n'a aucun sens de protéger ta prod comme tu le ferais si tu avais un e-commerce qui génère des millions par jour, si tu n'as personne en fait. Donc, tout un tas de trucs à détricoter pour se dire, OK, où est-ce que je peux simplifier et créer du momentum, en fait. Comment je crée du momentum, c'est-à-dire comment je crée une espèce de vélocité, et qu'on pourrait presque de parler de vélocité échappatoire, là, comme tu sais, quand on voit des fusées, c'est tu as une vélocité qui redescend jamais et qui t'aide à être de plus en plus productif. Donc c'est, voilà, c'est petit à petit enlever, détricoter tous ces process qui sont pas si utiles et ensuite apprendre à... Un des trucs aussi qu'on fait de mieux en mieux, c'est d'apprendre à célébrer un peu plus souvent. Parce que finalement, quand je décris ce qu'on vient de vivre, donc là, ça va faire deux ans et demi qu'on travaille, on n'a pas eu notre premier succès. On a eu plein de micro-succès, mais on n'a pas eu un succès significatif qui nous permette de déclencher la levée d'après, l'étape d'après. Et en vrai, si tu m'avais demandé au moment où je me suis lancé, est-ce que tu pensais que ça prendrait autant de temps ? Non, clairement pas. Et donc du coup, un des trucs qu'on essaie d'apprendre, c'est aussi de mieux célébrer plein de petits passages qu'on vit. Parce que sans ça, c'est quand même très très dur émotionnellement de rester émotivé, et d'avoir la niaque et d'être focus et avoir une clarté d'esprit dont on a besoin pour utiliser au mieux le temps qui nous reste, quoi.
Ouais, ça, point hyper important. Ce que tu disais juste avant ce point-là, c'était quand même de ne pas oublier du coup quel est le facteur différenciant de toi en tant que startup, c'est cette capacité justement à pas se surcharger de tâches, pouvoir se permettre d'avoir que la prod. Ça peut paraître juste lunaire pour d'autres personnes qui font tourner des applis où tu as des centaines ou des milliers d'utilisateurs. Ah ouais. Mais effectivement, quand tu testes, pourquoi t'embêter à avoir trois environnements quand tu sais même pas en fait si ça va être utilisé. Donc ce genre de réflexion, c'est effectivement des choses des fois un peu à détricoter, comme tu disais. Et après aussi, parce qu'il faut malgré tout, même si tu testes vite, comme tu viens de le dire, ça prend du temps avant d'arriver à trouver, à craquer le bon truc, et donc il faut réussir à garder la motive tout au long du chemin, et pour ça célébrer les petites victoires, même c'est un autre point que je trouve hyper intéressant. Je trouve qu'on a fait un bon panel autour de qu'est-ce que c'est que faire du produit dans le consumer social pré-market fit. Est-ce qu'il y a un point en particulier que tu voudrais accentuer avant qu'on aille vers mes questions de la fin, ou un sujet que tu trouves qu'on n'a pas assez traité, ou...
Non, je crois que je pense... Attends, je réfléchis si j'ai des trucs... un éclair de génie à partager avec l'audience, mais je crois pas. Je crois que c'est à peu près ça, ouais.
Très clair. Bon, en tout cas, je trouve ça un partage hyper intéressant. Donc déjà merci pour ça, Olivier. Donc pour aller vers mes questions de fin, donc la première, c'est est-ce que tu as une conviction forte avec laquelle, en général, tu te retrouves en désaccord avec tes pairs ?
Waouh. Est-ce que j'ai une conviction forte ? Ouais. Attends...
Et la deuxième, comme ça je te laisse réfléchir en même temps et tu pourras me répondre les deux d'affilée. La deuxième question, c'est quelles sont les choses qui te nourrissent intellectuellement ? Et l'idée derrière cette question, c'est pas juste que tu me donnes une liste de ressources, c'est aussi de comprendre comment tu réfléchis. J'aime bien savoir comment les gens réfléchissent. Donc ça peut être des ponts avec d'autres choses que tu fais dans côté perso et que tu fais des ponts avec le côté pro. Mais donc si on revient à la première question, c'est sujet point clivant où tu te retrouves en désaccord avec tes pairs.
Je crois qu'un des points... alors, je vais sortir du pré-PMF, mais un des points peut-être clivants... j'ai deux points qui me viennent en tête. Un, si on sort du pré-PMF, c'est... j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises qui vont me demander c'est quoi la vision produit. Et je pense que ça n'existe pas. Voilà. Je pense qu'il y a une vision d'entreprise et qu'il y a une stratégie produit, mais je pense pas qu'il y ait un truc qui s'appelle la vision produit. Alors on pourrait croire que c'est que de la sémantique, mais il y a beaucoup de boîtes où on essaie d'avoir vraiment plein de strates et chaque département essaie d'avoir un peu son son éventail complet de je suis censé avoir une vision, une stratégie, une tactique, etc. Et donc, généralement, moi, ce que je pense, c'est que dans bien des cas, quand on te demande une vision produit, c'est souvent plus un indicateur que la vision d'entreprise n'est pas très claire et que chaque département lui demande un peu de venir avec une vision. En toute logique, tous les départements, ils travaillent au succès de l'entreprise. Donc l'entreprise a une vision de c'est quoi le monde qu'elle veut être et quel produit elle veut être demain. Et donc du coup, à partir de là, on déploie une stratégie produit qui sert la vision d'entreprise. Et je crois que cette espèce d'échelon intermédiaire n'existe pas et que... on ferait bien d'y résister, en fait. D'essayer de se... Parce que j'ai vu plein d'endroits où il y avait des visions d'entreprise. Donc, je fais du coaching aussi. Donc, j'accompagne pas mal de gens qui sont dans ce genre de problématiques. Les visions produits, généralement, bah, oui, c'est soit une béquille au manque de vision d'entreprise, soit un truc qui te décale de la vision d'entreprise qui est peut-être existante parce que, justement, on recommence à créer un espèce de gouffre entre les deux et c'est pas très utile. Donc ça, c'est le premier sujet qui m'est venu spontanément, puisque c'est un sujet dont je parle souvent.
Ouais, ce point-là. Alors là, pour le coup, moi, je suis plutôt en accord avec ce que tu dis, puisque une vision, effectivement, pour moi, elle est portée au niveau de l'entreprise, le projet d'entreprise, et ensuite, elle se décline de différentes manières, d'une part par les produits ou services qu'elle va vendre, la façon dont elle va interagir et faire interagir ses collabs, donc là-dessus, je suis assez aligné, en fait, avec ça, j'ai pas tant de challenge, en tout cas, de mon point de vue.
Ouais. On verra si les auditeurs ont un peu de challenge, mais en vrai, celui-là, il est probablement tiède. Mais l'autre sujet aussi qui revient souvent dans mes coachings, j'étais en train de repasser en revue mes coachings pendant que je parlais pour voir un peu les sujets qui reviennent souvent, c'est je suis dans une entreprise... en fait, il y a beaucoup d'équipes produits avec qui j'ai pu collaborer, et moi-même, j'ai fait ça longtemps, qui veulent faire du produit absolument. Du product management absolument. Et un des outils que j'ai trouvé vachement utile, c'est de me rendre compte que tout ce qui arrive vers l'équipe produit n'est pas du produit. Et de comprendre qu'en fait, il y a un peu deux grands flux, des projets et des produits. Donc il y a des parties de ce qu'on a amené à travailler qui est vraiment du product management au sens j'ai compris un problème, il est bien articulé. Et le solution space, on va l'explorer, on va être plus ou moins innovant, etc. Innovant, incrémental, enfin, on va aller chercher des métriques, un objectif, un outcome. Et il y a tout un tas d'autres sujets où en fait, le product manager, ce sujet, il n'y a pas besoin de le questionner, il doit sortir. Et là, on est plus dans une dynamique de product management, de project management, pardon, où le but, c'est juste de se dire comment je produit ce truc-là le plus vite possible, le mieux possible, le plus qualitativement possible pour le sortir. Je me souviens par exemple, un cas évident, quand j'étais chez Mano Mano, un moment, donc Mano Mano c'était une marketplace de bricolage. Donc en gros, nous on était très forts à acquérir des clients qui on leur proposait un catalogue et après ce qui se passait c'est que les commandes sont envoyées au marchand et le marchand fait la livraison. Et à un moment on se dit ok, si on veut step up en termes de qualité, de service qualité, il faut qu'une partie des produits soit dans un entrepôt à nous et qu'on soit ceux qui prennent en charge la commande dès qu'elle est passée. Donc on doit créer notre premier entrepôt, on doit créer tout un système de logistique en fait. Pour faire ça, c'était l'équipe produit, il y avait une équipe produit qui était en charge de la logistique chez nous. J'ai senti très vite qu'on allait avoir des soucis si on n'avait pas su se dire non, là on est sur du project management. Il ne faut pas découvrir le solution space. On sait exactement ce qu'il faut faire et on sait à quelle date on veut que le premier carton y parte. Donc là, l'idée, c'est de rétro-engineer un planning et d'être hyper efficace et d'être vraiment dans une pure dynamique de project management. Et donc là, ça paraît un cas évident, mais il y a plein de moments dans des équipes produits où, dans mes coachings, je me rends compte avec eux, quand on en discute, que une partie des tensions, des frustrations qu'on peut avoir sur « oui, mais tu comprends, les stakeholders, là, ils m'imposent une solution » ou dans la roadmap, on n'a pas mis des problèmes ou des outcomes, mais des solutions. Et je leur dis « ouais, mais il y a une partie de ces trucs-là, on est purement dans du project, en fait. Il faut le faire, c'est pour être compliant, c'est pour être ci, c'est pour être peu importe la raison. » Donc là, on n'est pas dans une dynamique de product management.
Ouais, là-dessus, donc, vision assez intéressante. Et alors moi, je ne serais pas aussi... je ferais pas une coupure aussi nette, dans le sens où pour moi le product management permet en fait de recouper, si tu veux, plusieurs mondes dont on parle souvent double diamant, discovery, delivery. Donc on pourrait associer la delivery plus à la partie justement projet, c'est-à-dire faut livrer le projet en essayant de s'engager sur des jalons, la partie discovery plus sur justement comment tu comprends tes utilisateurs, ton problème, et là qu'on pourrait rattacher plus à la vision produit idéal que pas mal de product managers ont. Moi, ce que je trouve intéressant derrière cette terminologie product management, et aussi pourquoi d'ailleurs je combats la notion de product owner en tant que métier, et pour moi c'est juste un rôle dans Scrum, donc c'est un cas très particulier, mais il y a un métier plus global qui est le product management autour. Moi ce que je trouve intéressant dans le product management, c'est que ça permet aussi de regrouper en fait plusieurs expertises au sein d'un un peu un genre de gloobie-boulga, tu vois, d'expertise, mais qui ensuite, en fonction du contexte, en fonction de l'entreprise, en fonction de la typologie produit ou service que l'entreprise va fournir, tu vas utiliser des techniques plus ou moins différentes. C'est-à-dire, si tu es dans un contexte où, effectivement, tu vas être très innovant, tu vas devoir lancer des choses de manière dont tu ne connais pas encore la finalité, tu vas aller sur des logiques très explorer le problème, ensuite diverger là-dessus, converger. Dans d'autres cas, tu vas utiliser certaines techniques pour ça, de la recherche utilisateur et autres. Et dans d'autres cas, tu vas être assez clair sur ton problème. Il va falloir pouvoir livrer de manière rapide, mais tu auras toujours quelques ajustements à faire au fil de l'eau, parce qu'il y a des choses qui vont évoluer. Et c'est là où tu pourras t'appuyer par moment sur des méthodos peut-être plus liés à la discovery, alors que tu es en phase de delivery. Donc je trouve que la porosité en fait entre le monde du projet classique tel qu'on l'avait il y a 20 ans et tel qu'il est nécessaire aujourd'hui dans le monde du digital, cette porosité est de plus en plus importante entre le monde projet et produit. Et donc je trouve que le monde du product management permet en fait de réconcilier un peu ça. C'est juste qu'après, ça crée, comme tu le dis, parfois des grosses frustrations de PM qui vont se retrouver dans des situations où il va falloir livrer, il n'y a pas de question là-dessus, c'est-à-dire il n'y a pas de question à explorer tant que ça le problème space, comme tu disais. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il faille à tout prix se dire, bon, en fait, je suis dans une boîte qui fait que du projet, je sors mon diagramme de Gantt et je fais mon rétro-planning et je fonctionne comme il y a 20 ans. Tu vois, je pense qu'on peut toujours mettre des petits bouts à droite, à gauche, de méthodo.
Je pense qu'on dit la même chose. Moi ce framing que j'offre, c'est plus pour... il est volontairement réducteur et volontairement très différencié pour dire, en fait, tu mets une casquette ou l'autre, et pour être capable de manager tes propres expectations, en fait. Être capable de te dire, ah oui, là, c'est mon projet du moment, et là, je fais de la recherche produit, au sens où j'ai un outcome, mais le solution space, il peut bouger. Et il peut bouger au fur et à mesure où on va livrer des choses et apprendre des choses. Là où ce que j'appelle, moi, le project management, justement, c'est volontairement pour des parties, parce qu'on en a tous à gérer, où en fait, le solution space, il y a peu de chances qu'il bouge, quoi. Si tu travailles sur des flux financiers, si tu travailles sur des flux logistiques, si tu travailles sur de la gestion de droits dans ton SaaS, etc., il n'y a pas de solution space à explorer. La solution, elle est connue, il y a des best practices. Et donc, en fait, même en tant que product person, c'est intéressant de se questionner sur l'industrie que je rejoins, à quel point je pense qu'on va être... C'est quoi la proportion de product et la proportion de project? Typiquement, moi, je suis passé par Mano Mano, une boîte e-commerce. La réalité... on faisait quand même plus de project que de product. Parce que les best practices de l'e-commerce sont quand même relativement connues. Il n'y a pas beaucoup d'e-commerce qui sont arrivés avec des trucs particulièrement nouveaux dans les 30 dernières années, quoi. Je veux dire, Amazon a créé plein de nouveautés, mais parce que c'était un peu le first mover sur... comment le commerce se redéfinit à l'époque d'Internet, quoi. Mais depuis, il n'y a pas non plus des choses si nouvelles. Et donc, en fait, moi, c'est plus une histoire de casquette et de comment toi, tu penses ton rôle à un instant T en fonction des sujets que tu es amené à manipuler. Mais sinon, je suis assez d'accord que le product management fait la synthèse et le product manager fait la synthèse de ces différents métiers. Mais attention, voilà, avec... En fonction de cette casquette, tu vas vivre mieux des choses, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est pour aligner les attentes que tu as aussi par rapport à la réalité du job qui te sera demandé. Là-dessus, je te rejoins aussi complètement. Du coup, pour aller vers ma dernière question, c'est les ressources, les choses qui, toi, te nourrissent intellectuellement. Comment tu t'inspires et comment tu te nourris intellectuellement?
Ouais, plein de choses. Je ne sais pas trop quoi raconter, mais... Moi, je suis quelqu'un qui a toujours fait beaucoup de veille, donc c'est un de mes sujets. Enfin, c'est une de mes activités, quoi. Je suis un vrai passionné de ce qu'on fait, etc. Donc, je lis beaucoup. J'écoute des podcasts comme le tien, comme plein d'autres podcasts. En ce moment, le marché français a plein de podcasts sur ces sujets, donc c'est top. J'aime beaucoup, justement, les. Je trouve ça plus intéressant de s'éloigner de la littérature. Académique, on va dire, sur nos métiers, et d'aller beaucoup plus vers ce témoignage à la première personne, que je trouve trop bien pour comprendre ce que c'est la réalité des gens, si on s'éloigne de l'article qu'on a écrit quelques années après, quand on était en succès. Par exemple, une des raisons qui m'a motivé à venir discuter avec toi, alors que je suis très occupé par trouver le product market fit, c'était de me dire, en fait, si on a du succès, je te raconterai demain une histoire qui est probablement édulcorée, parce que j'aurais oublié toute la douleur et toute la sueur qu'on aura laissée sur le chemin. Et du coup, je me disais, ouais, non, je crois que j'ai envie de partager aussi, pendant qu'on est en train de le vivre, tous ces soubresauts, toutes ces incertitudes, toutes ces choses-là, de partager un peu ce qu'on a appris, ce qu'on apprend, où est-ce qu'on en est, parce que je crois vraiment que c'est un des meilleurs moyens... d'apprendre en fait, de discuter avec des pairs, de participer à des communautés ou de lire des contenus qui sont plutôt à la première personne comme ça. Moi, c'est, en tout cas, je fais la part belle à notamment ces contenus dans ma newsletter aussi parce que je trouve que c'est ceux qui ont le plus d'enseignements, quoi.
Top, ben, merci pour ton partage, merci pour ton temps Olivier, et puis je te souhaite le meilleur évidemment pour Backstage sur 2024.
Merci beaucoup à toi aussi.
Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.